C'est le retour des grands explorateurs pour une 52e édition et ça a toujours la même mission, c'est de nous faire voyager, de nous apprendre des choses. Et le premier film de la saison va nous amener là où il fait froid, mais malheureusement de plus en plus chaud en Arctique et au Groenland. Et là, on jase avec le réalisateur, explorateur, caméraman, photographe sous-marin et celui qui raconte son périple, Mario Cyr. Bonjour!
Bonjour, Rosie.
D'emblée, là, pourquoi cette destination-là? Qu'est-ce qui vous intéressait en Arctique et au Groenland?
Ben, premièrement, je suis allé beaucoup en Arctique. Hein. Depuis 1991, j'ai fait 45 voyages, incluant celui de cet été. Puis, avec Odyssée sur les glaces, pour moi, ce qui était important, c'était de montrer, de démontrer vraiment l'importance de la glace. Parce que souvent, les gens, la glace, c'est éphémère, ça veut dire que ça arrive et ça part. Mais sous cette glace-là, les glaces de l'Arctique, là, on retrouve une vie incroyable. Il y a plus de 1800 espèces de phytoplancton, donc de petites algues. Il y a du zooplancton, donc ça attire toute la chaîne alimentaire. Et donc, c'était vraiment important pour moi de montrer aux gens l'importance de cette glace-là parce que on sait que la glace diminue énormément. Et probablement, dans 40, dans 50 ans, il n'y en aura plus de glace dans l'Arctique. Ça veut dire que c'est qu'est-ce qui va se passer à ces moments-là. Donc, on est allé à trois endroits, deux endroits dans l'Arctique canadien, Ripples Bay et Arctic Bay, et aussi du côté du Groenland pour voir comment ça se passe aussi autour des icebergs. Là.
Et là, vous l'avez dit, ça fait quand même plusieurs fois que vous êtes allé là-bas, mais le constat que vous avez fait particulièrement cet été en vous y rendant, ça a été quoi?
Ben, c'est toujours la même chose, c'est qu'il y a de moins en moins de glace. Donc ça, c'est vraiment, visuellement, c'est apparent, donc c'est flagrant. Mais aussi, ce que c'est qui se passe, c'est que ça fait changer les routes migratoires des animaux. Donc, les animaux ne sont plus au même endroit qu'ils étaient dans les années 90. Donc ça change beaucoup. Ça change aussi la dynamique au niveau des Inuits, hein, le peuple qui vit là-bas, parce que pour eux, ce que c'est qui est important, c'est la chasse, la pêche, aller se visiter de village en village. Donc, tout ça devient de plus en plus difficile pour eux aussi. Puis juste pour vous donner un exemple, dans les années 90, c'était très, très rare qu'on arrêtait sur la banquise pour sonder l'épaisseur de la glace. C'était tellement épais que les Inuits ne prenaient pas la peine. Puis aujourd'hui, ben, quand on se promène sur cette glace-là, ben, ils arrêtent souvent justement pour sonder, pour pas défoncer. Donc, la glace rétrécit au niveau de l'étendue, mais au niveau de l'épaisseur aussi. Puis si on prend juste les ours polaires, ça doit manger hein, entre 40 à 50 phoques par année. Puis ça attrape les phoques sur la banquise et non pas dans l'eau. Donc, ils ont besoin de cette banquise-là. Là.
Puis on s'entend, pour tourner dans ces endroits-là, au Groenland particulièrement, c'est pas le même contexte que de filmer dans le Vieux-Québec. Là. Est-ce que vous avez vécu des défis ou des contraintes pendant soit ce tournage-là ou en général dans vos différents périples?
Ah bon, oui, il y a toujours de l'imprévu. C'est très, très, très difficile aujourd'hui de prévoir. Ben, premièrement, une conséquence qu'il y a aujourd'hui par rapport à avant, c'est qu'il y a beaucoup de glace sur la banquise. Donc, c'était pas des choses qu'on voyait dans les années 90. Donc, énormément de glace pour se déplacer, énormément d'eau plutôt. Donc, il faut se déplacer avec cette eau-là. Donc, ça vient un peu contrer les déplacements en motoneige comme tel. Puis, comme je disais, c'était tellement facile, de 91 à 2000, se dire on va à tel endroit puis on va aller filmer les animaux telle date. Et aujourd'hui, ben, on est mieux d'attendre, en fait, compte que les nos guides Inuit nous rappellent pour nous dire que, bon, c'est beau, les animaux sont arrivés parce que, tu sais, il y a presque peut-être deux mois de décalage, là. Donc, c'est énorme. Et c'est très difficile de prévoir présentement. Même la température change radicalement, très rapidement. Avant, les Inuits avaient quand même cette possibilité-là de prévoir un peu la météo. Puis aujourd'hui, ben, ça devient de plus en plus incertain.
Puis nous, on est du genre à se réjouir quand on a un mois de septembre qui est excessivement sec et excessivement chaud. Mais pour vous, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Là. Vous êtes bien placé pour savoir quel impact ça peut avoir.
Oui, ben c'est certain. Hein. Moi, je suis aux premières loges, là, donc je suis ce qu'on appelle un témoin privilégié de pouvoir voir tout ça. Puis c'est vraiment ben, le gros problème, c'est que ça va très rapidement. Juste parce que je veux pas perdre les gens dans des chiffres, mais juste pour vous donner un exemple, Si on prend les ours polaires les plus près de nous, ils sont situés dans la baie du Centre. Et aujourd'hui, en 2024, il y a 82% de moins de glace que dans les années 90 dans cette baie du Centre-là. Donc, c'est sûr que ça change énormément. Donc, comme je disais, c'est une influence sur toute la chaîne alimentaire qui s'y trouve sous cette glace-là ou sur la glace comme telle. Donc, c'est sûr que c'est pas une bonne chose parce que on a besoin de la glace. On a besoin aussi du froid dans l'Arctique parce que c'est ça qui vient régulariser les températures sur Terre. Et quand il fait moins froid, ben ça vient déstabiliser le Gulf Stream, ça vient déstabiliser parce qu'il y a plus d'eau douce qui rentre dans cette colonne d'eau-là. Ça vient aussi déstabiliser le courant jet. Donc, il y a une influence là, énorme sur tout le climat qu'on reçoit ici plus au sud. Oui, c'est plaisant aujourd'hui pour nous, mais voyez à la vitesse que ça va, puis on va continuer à se réchauffer comme ça. Ça fait qu'à un moment donné, ça va être presque insupportable aussi, là.
Et là, j'entends que vous êtes allé faire ce périple-là qu'on va voir dans le film cet été. Est-ce qu'il y avait une raison pourquoi c'était en période estivale et non hivernale?
Ben, c'est-à-dire qu'on va toujours dans l'Arctique l'été. Premièrement, il y a du soleil 24 heures par jour, ce qui est beaucoup plus facile de tourner parce que l'hiver, c'est la noirceur 24 heures par jour. Donc, c'est complètement différent. Les températures sont beaucoup plus agréables, c'est plus facile aussi pour nos guides Inuits d'aller chasser et pour nous, ben, de nous amener où sont les animaux comme tels. Donc au moins, ça change pas là, quand on parle au niveau de la clarté là. Donc c'est certain que c'est presque pas faisable d'aller tourner là en plein hiver là. Et le film, il a été tourné en 2019. Mais devait passer dans les salles de cinéma à partir de février 2020, puis on sait qu'est-ce qui s'est passé, hein. Mm-hmm. Donc, avec la pandémie, puis c'est pour ça que là, présentement, on le présente aux grands explorateurs, donc pour une première fois là, dans les salles. Là.
Et pour ceux qui n'ont jamais vu un film des grands explorateurs, particulièrement celui-là, l'Odyssée sous les glaces, à quoi on peut s'attendre comme visionnement, comme image, comme témoignage?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images de petites bébites sous la banquise, ce qu'on est peut-être moins habitué à voir. C'est sûr qu'on voit des morses, on voit beaucoup d'ours polaires, on voit des baleines boréales, des narvals, des belugas. Donc ça, ce sont peut-être des animaux qu'on est plus habitué à voir. Mais aussi, on démontre vraiment avec ce film-là comment tous ces animaux-là sont collés sur la glace. Et il y a un petit peu moins de visibilité parce qu'il y a tellement de vie, il y a tellement de petits animaux microscopiques. Et quand on se retrouve à peine 100 mètres de la glace, mais là, c'est l'eau claire, mais il y a beaucoup moins d'animaux, il y a beaucoup moins de vie. Donc, cette proximité-là avec la glace est très, très, très importante. C'est la même chose que les icebergs qui fondent. Donc, des icebergs, c'est de l'eau douce. Et donc, quand ça fond, cette eau douce-là remonte parce qu'elle est plus légère que l'eau salée vers le haut, et ça fait comme un moteur, donc ça entraîne toute cette, encore une fois, cette chaîne alimentaire. Donc là, on le démontre très, très bien. Les gens sont un peu stupéfaits de voir comment ça fonctionne. Je pense que c'est une nouvelle façon aussi de montrer des images de l'Arctique, parce que quand on parle, parce que je travaille pour National Geographic ou la BBC, puis les images sont bien claires, puis sont bien belles, mais c'est bien rare justement qu'on va s'approcher trop près de la glace parce qu'il y a moins de visibilité. Mais là, on montre la grande différence de vraiment s'approcher. On voit les animaux quand même, là. Il y a des bonnes images. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit toute cette petite vie-là qui est assez incroyable, là.
Dans quelques minutes, ça a déjà été un bon aperçu et tellement intéressant. Puis c'est ce qui nous attend le 19 octobre prochain à la salle Anaïs Salard-Rousseau, Les Grands Explorateurs, l'Odyssée sous les glaces. Mario Cyr, merci infiniment. C'est très sincère quand je dis que c'est intéressant. En peu de temps, j'en ai appris beaucoup. Alors, merci beaucoup pour votre temps.
Ben écoute, ça me fait énormément plaisir. Puis on attend le monde en grand nombre. Ça va me faire plaisir. Je suis là à chaque représentation, puis je peux répondre aux questions. Il y a des gens qui ont des commentaires, donc c'est très le fun de rencontrer les gens aussi, là.